Chapitre 12. Le bon complot. Stéphane ne parla plus de porter plainte. La tristesse qui s'abattit sur lui au lendemain de cette aventure inconcevable semblait le stupéfier, effaçant de sa mémoire jusqu'au souvenir de l'intrusion nocturne. En quelques heures, il avait repris le visage dur et fermé, l'expression inquiète et sauvage des premiers temps de sa convalescence. Une éclaircie pourtant traversa ses jours sombres. C'est vu lorsqu'il abandonna cet appartement de la rue Guillemer, où pendant 2 années, l'avenir s'était plus à lui sourire comme par mystification. Rosine avait appréhendé pour Stéphane le moment du départ, la dernière tournée dans les chambres vides, l'écho des pas sur les planchers retentissants, l'adieu aux murailles qu'on ne reverra plus. Mais il y avait la fente dans la porte, et l'on eût dit, à regarder Stéphane, que tout le départ consistait à quitter cette fente de malheur. Il n'eut Dieu que pour elle. Tandis que Rosine allait de salle en salle et donnait à chacun un souvenir mélancolique, lui l'attendait sur le palier. Il fumait une cigarette et contemplait la fente avec un air de triomphe et de raillerie. Un signe sanglant avait marqué la porte de sa chambre. Il était rentré sous l'augure le plus sinistre. Mais le présage avait menti. Le sang n'avait pas coulé sous son toit. La victoire, en somme, lui restait. Quand Rosine l'eut rejoint, quand la porte eut claqué sur l'appartement désert, répercutant son bruit aux voûtes du passé, le sourire de Stéphane fut un éclair de joie. Cette porte fermait dans son existence une galerie pleine d'embûches heureusement parcourues. Maintenant, il marchait la tête haute, fort de son avantage. Il marcha de la sorte jusqu'au boulevard Montparnasse et monta dans l'aile des Grèces les 6 étages de sa nouvelle maison. Rosine, joyeuse et ravie, s'amusa d'une course. Ils grimpaient en riant et se bousculaient comme des écoliers. Mais elle était prompte et il boitait sans remède. Rosine, la première, vit le couteau dans la porte. La lame était rouge et le manche marqué du lix fatidique. Une terreur répulsive l'empêcha de le saisir. Stéphane, pâle comme la mort, le fit disparaître. Qu'on imagine un condamné certain de sa grâce et que le bourreau vient chercher. Le soleil s'était éclipsé pour longtemps. Régina le rouvrit. Non, elle n'avait rien vu, rien entendu. Rosine lui avait confié l'histoire du couteau dans la porte de la rue Guinemer. La piquante brunette s'en était émerveillée comme d'un épisode sensationnel de roman cinéma. Mais elle n'avait pas dissimulé son mépris pour les 3 serviteurs qui n'avaient su rien voir ni rien entendre. Et aujourd'hui, c'était son tour. Penaud est stupéfaite et l'écouta sa patronne lui faire le récit des circonstances qui avaient accompagné la dernière manifestation des terroristes et ne put fournir là-dessus le plus petit éclaircissement. C'était la 3e fois que le signe du couteau apparaissait à Rosine. Elle l'avait vu pour la première fois dans le cauchemar extériorisé de Stéphane. Quant à lui, tout portait à croire que s'il avait rêvé cette nuit-là d'un couteau marqué d'un X et dégouttant de sang, un couteau qu'il devait retrouver sur le chemin de la vraie vie, c'était que ce couteau s'était déjà mêlé de ses affaires antérieurement au cauchemar. Mais dans quelle conjoncture ? Ce signe pouvait-il être autre chose qu'un rappel impressionnant, un memento lugubre, inépuisablement renouvelé ? L'image, le facsimilé d'un couteau qui avait joué jadis un rôle plus terrible que celui d'épouvantail. Et le caractère mélodramatique, rocambolesque de ce signe, qu'en fallait-il penser, sinon que la littérature fantastico-policière avait encore inspiré quelqu'un de ses admirateurs ? Par ailleurs, aujourd'hui, Spectrophélès ne s'était pas montré concurremment avec le couteau. Tout cela tourmentait douloureusement l'esprit de Rosine. Trop d'indices lui faisaient comprendre que la persécution ne cessait de creuser sa mine sous leurs pas. Plus que jamais, il eût été nécessaire que les deux époux redevinssent des alliés étroitement unis par la confiance. Mais plus que jamais, Stéphane était retiré au fond de lui-même, plongé dans une tristesse affreuse. En même temps, la rage de recouvrer son talent perdu subit une recrudescence. Sa marotte frisait la démence. Le malheureux ne quittait l'électriseur que pour se mettre au clavier silencieux. Il multiplia les séances de massage. Des commerçants l'exploitèrent sans scrupule. Il achetait, à tort et à travers, toutes sortes de drogues, d'appareils et de livres. La chambrette affectée à ses solitudes curatives, et qui devint à son tour la chambre des mains, restait soigneusement close. Il n'avait cédé à personne le soin d'y installer son matériel hétéroclite, et il en gardait la clé dans sa poche. Enfin, l'idée fixe prit de telles proportions que Rosine appela M. de Crochant à son aise. « C'est, lui dit-elle, la ruine et la folie à brève échéance. » L'excellent chevalier flatta d'une main soigneuse son crâne miroitant, ce qui était pour lui le geste de la perplexité. Et sa face plaisante fut une expression de sagesse qui avait l'air de ne pas tenir dessus et qui profitait du moindre clin d'œil pour se sauver. Il dit cependant, sagace et imprévu, « Avez-vous remarqué combien Stéphane ressemble à son père depuis quelque temps ? La neurasthénie qui le vieillit momentanément accentue ses traits dans le sens héréditaire. Les attitudes aussi, les silences, cette ombre qui le recouvre. Eh bien, oh, il faudra que je le fasse remarquer à l'auteur de ses jours en exagérant. Mais quel rapport ? Oh, je connais mon notaire. Cette ressemblance comptera dans la réussite d'un dessin que je forme et qui est de raccommoder Stéphane avec son père. Et alors, si je les raccommode, vous n'aurez plus à vous inquiéter des dépenses de votre mari. Oh, ces dépenses ne sont pas ce qui me préoccupe le plus. Je voudrais que Stéphane m'aida à ce rapprochement. Vous pensez bien qu'une question de ressemblance ne suffit pas. Ah, s'il voulait seulement. Et la malice plissait la patte droite du chevalier. Quoi donc, fit Rosine ? Ben, s'il voulait se laisser initier au spiritisme ou feindre quelque intérêt pour les sciences occultes. Voilà qui désarmerait le papa. Mais mon bon ami, Stéphane a toujours traité l'occultisme de balançoire. Et si vous vous imaginez qu'il a l'esprit à jouer de la comédie, jamais je n'oserais lui proposer une pareille entreprise. Et puis, ce n'est pas cela qui le guérirait. Je ne suis pas de votre avis. Entre nous, quand on a goûté au chaud de l'au-delà, même par jeu, même par feintise, il est bien difficile de s'en passer. Et un clou chasse l'autre. Essayons, voulez-vous ? Mon petit doigt me dit que Stéphane se laissera décider plus facilement que vous ne le croyez. Ce petit doigt, ce vieux petit doigt bagué d'une orbiculaire à ses armes, il le dressait contre son oreille et semblait écouter ses révélations. Rosine eut soudain l'intuition d'une perspicacité supérieure et d'arrière-pensée trop profonde pour elle. « Alors, demanda-t-elle en hésitant, ça existe donc, votre au-delà spirit ?» Le chevalier, fort tranquillement, lui répondit, « Oui, et d'ailleurs, je suis assez versé dans la connaissance de l'occultisme et des occultistes vrais ou faux pour faciliter les manifestations des esprits, pour les solliciter par des sortes d'appos qui les invitent à s'y méprendre. » Mais vous avez une idée derrière la tête. Avez-vous confiance en moi ? Oh, pleinement. Alors laissez-moi donc faire. Si j'échoue, pas de dégâts, mais si je réussis, Stéphane est sauvé. Sauvé, vous comprenez? La lumière, toute la lumière. Comme le chevalier pesait de toute sa voix sur ces mots assez inattendus, Rosine lut un blâme dans son œil pétillant. Elle baissa la tête, puis prenant son parti avec la soudaineté d'un coupable touché par le remords, elle raconta tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait caché jusqu'ici au seul être qui lui fut dévoué sans mesure. Elle remonta au jour de la catastrophe, parla du spectre, énuméra ses apparitions, retraça le vol et la restitution des bijoux, et n'oubliera rien concernant les couteaux. À mesure qu'elle complétait par cette révélation totale ce que le chevalier savait déjà de la grande infortune où naufrageait Stephen, le peintre psychiste donnait les marques d'un intérêt croissant, ce qui consistait à faire bouffer sur sa tête désertique les boucles absentes d'une crinière léonine. Quand Rosine eut terminé ce récit qui était un aveu, il prit quelques minutes de réflexion et dit seulement « Oh, le nœud de cette aventure est gordien !» Il s'échappait comme dans un nuage de drôlerie. « Oh, j'ai souffert, allez !» fit Rosine d'un ton piqué. « Madame, lui dit-il, c'est un hagiographe qui écrira votre histoire. » Elle comprit qu'il voulait moins la railler que lui remonter le moral et se retrancher pour le moment derrière une apparence de gaieté. « Vos explications, reprit-il, ne changent rien à mes projets. Envoyez-moi Stephen, je le confesserai à ma façon. » Il la quitta sur ses paroles, précipitamment comme s'il lui tardait d'être seul et de pouvoir méditer à son aise sur tout ce qu'elle venait de lui apprendre. Quelques jours après, il reçut de Madame Orlac la lettre qu'on va lire. « Mon bon chevalier, attendez-vous à recevoir Stephen tout à l'heure et préparez vos batteries. Notre dernier entretien m'avait laissé dans l'indécision sur ce que je devais faire. Malgré votre assurance, je craignais l'effet de vos diableries sur l'imagination de mon pauvre obsédé. Mais son état ne fait qu'empirer. Tout vaudra mieux que l'inaction. Mon devoir est de vous seconder. Il a maintenant des accès d'angoisse qui me font craindre le plus atroce dénouement. Tout à coup, je le trouve plongé dans un abattement lugubre, ou bien je le surprends qui marche, gesticule, exalté, en proie à la surexcitation la plus pénible. Il s'écarte de moi. Je n'en puis tirer quoi que ce soit. Ses cauchemars même ne m'apprennent plus rien. Les nuits qu'il passe sont des supplices. Il préfère souvent ne pas se coucher et rester jusqu'à l'aurore enfermé dans la chambre des mains. Ou bien, pour se distraire, il ramène quelques camarades du concert pourpre et ils font de la musique jusqu'à une heure avancée. Je lui ai proposé d'aller voir un médecin, mais il ne veut pas en entendre parler. Il prétend qu'il n'est pas malade, qu'il ne souffre que du regret d'avoir été et de ne plus être. C'est possible. Et pourtant, le matin, quand il n'a pas veillé, il s'inquiète de ce qu'il a pu dire en dormant. On dirait qu'il redoute la trahison des rêves. On dirait qu'il voit se resserrer autour de lui le cercle mystérieux de la persécution. Je le sens, attendez que je trouve mes termes, je le sens investi par d'invisibles forces dont la marche convergente ne se traduit pour moi que par l'angoisse de leurs victimes. Vous y êtes? Recevez-le en ami avant de le recevoir en spirit, car il ne faut pas qu'il évente notre complot. Sachez pourtant que vous ne le trouverez nullement hostile à vos projets. Je lui ai touché deux mots de votre science. Chose incroyable, je n'ai pas rencontré l'opposition méprisante que j'attendais. Tout est possible, il ne faut jurer de rien, on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Telles furent ses remarques. Oh, elles m'ont prouvé votre pénétration. J'ai cru bon de vous avertir de l'état d'esprit où se trouve notre Stéphane. Il est sur le point de se rendre chez vous. Ne pouvant lui devancer, je confie ce billet à la diligente Regina, votre complice, Rosine Stephen Orlach.